Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Nous sommes le 23 mai 2020 et vous écoutez le Café de l'e-commerce. Je suis Laetitia et je suis accompagnée d'Adrien.
Bonjour Laetitia, ravi de te retrouver et d'enregistrer cet épisode avec toi. Le Café de l'e-commerce est le premier podcast en France sur l'e-commerce pour les professionnels, mais aussi pour tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin à l'e-commerce.
Le Café de l'e-commerce vous propose de faire votre veille différemment dans vos oreilles. Adrien,
Laetitia,
prêt. Synchronisation des montres. Et on commence tout de suite notre épisode avec notre rubrique phare « Quoi de neuf chez nous ?».
Cette semaine, on voulait vous remercier. On a eu beaucoup de retours et des retours très positifs sur le dernier épisode qu'on avait enregistré avec Armand la semaine dernière sur la Chine. Donc, il a très bien marché. Il y a eu plein de retours.
Oui, et on tenait vraiment à vous remercier avec Adrien d'être toujours plus nombreux, que ce soit sur notre page LinkedIn, sur d'autres plateformes de réseaux sociaux, mais aussi sur le groupe WhatsApp. Merci beaucoup pour votre engagement, votre engouement. On vous promet de belles surprises pour le reste de cette année. On a plein d'invités dans le pipe et nous sommes vraiment, vraiment ravis de recevoir ces prochains invités. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que sur notre site, il y a une nouvelle page qui s'appelle Guest et vous pouvez retrouver l'ensemble de nos guests qui sont venus depuis le début de cette aventure. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour.
Et si vous souhaitez participer à l'émission, on le dit, parfois on le dit même plus parce que ça nous paraît évident, mais vraiment n'hésitez surtout pas. Il y a même des personnes dans le groupe WhatsApp, quand elles réagissent, on les contacte en privé, on leur demande et on explore les pistes de leur intervention. On trouve ça super de pouvoir donner la parole à beaucoup de personnes différentes et c'est surtout les profils variés qui nous intéressent et pas juste les têtes d'affiche. Donc n'hésitez pas à nous contacter et de toute façon, proactivement déjà, on a pas mal, comme Laetitia l'a dit, de personnes qui vont apparaître et vraiment des jolies non dans les prochains épisodes. On commence tout de suite, Laetitia.
Allez, on y va. On passe aux infos à retenir de la semaine. Adrien, je pense que tu n'as pas pu la louper, cette info. C'est Facebook qui lance Facebook Shops. Donc, on l'attendait. C'est la véritable entrée du groupe Facebook dans le monde du e-commerce avec Facebook Shops. Alors attention, je ne parle pas de Facebook Shopping ou d'Insta Shopping, mais bel et bien d'un outil e-commerce natif du groupe Facebook. Mark Zuckerberg l'a expliqué dans une vidéo qui date du 20 mai. C'est une vidéo que vous pouvez retrouver, d'ailleurs on la mettra dans les notes de l'émission. C'est une vidéo de 24 minutes. Alors Mark, il a une tête un peu bizarre, il a les yeux hyper rouges, il est tout blanc, voilà, on sent qu'il...
Il est fatigué, tu crois?
Il est toujours pas à l'aise. je me moque, c'est un peu facile, mais en même temps, quand on n'est pas à l'aise, on ne l'est jamais. Il est dans une pièce blanche, très sobre. On se doute pas qu'il est dans sa superbe villa. Mais en tout cas, là, il a fait son annonce, a fait l'effet d'une bombe. Et il nous explique que le confinement a accéléré l'entrée du groupe Facebook dans le e-commerce. On en a souvent parlé, surtout dans les premiers épisodes du Café de l'e-commerce. Et on se disait que ça galérait un peu quoi en fait et dans tout le stack du groupe Facebook. Et là Marc dit le confinement c'est une opportunité parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de petits business, ce qu'on appelle chez nous des TPE, des PME, voilà, lui emploie le terme de small business, ont été fortement impactés, surtout aux États-Unis, que des boutiques fermées, les boutiques physiques avaient des boutiques fermées du coup, mais que souvent les small businesses participaient dans Facebook via des pages vitrines et que ça n'allait pas au-delà puisque de toute façon Facebook ne pouvait pas proposer autre chose. Marc a mis un gros coup d'accélérateur sur son équipe produit en disant maintenant on va proposer à ces pages vitrines de devenir des e-shops. Parce que là, il y a trop d'argent qui a été perdu, donc accélérons. Pour rappel, le groupe Facebook, c'est Instagram, Facebook, Messenger, et puis WhatsApp. Ce que Marc explique très très bien, et franchement, je vous invite à aller voir la vidéo parce que c'est pas compliqué, c'est que ça coûte cher de faire un e-shop. Aujourd'hui, quand vous n'avez pas les moyens de faire un e-shop, vous allez vous diriger vers d'autres plateformes, et bien souvent, il va falloir vous connecter, vous plugger à d'autres outils. C'est parfois compliqué, donc vous allez faire appel à des développeurs, à des agences. Donc vous allez soit vous apprenez vous-même, soit vous faites appel à des prestataires extérieurs. Les marques dites DNVB, et d'ailleurs on va en parler un petit peu plus tard dans notre interview avec notre invité de cet épisode, que aux États-Unis on n'appelle pas DNVB, on appelle des direct to consumer. On bâtit toute la stratégie commerciale sur du contenu, des valeurs de marque, la communauté. Et ça, ce sont vraiment des valeurs propres au digital. Ce sont pas vraiment des valeurs qu'on va retrouver en boutique physique. Marc dit, je l'appelle Marc.
Marco.
On va s'inspirer de ça. Marco, Zuki, on va s'inspirer de tout ça. Et les gars, quand vous avez créé tout ça, quand vous avez vos valeurs, machin, votre contenu, et c'est ce qui se passe, puisque de toute façon, quel est l'endroit où on parle le plus? C'est bien sûr les réseaux sociaux. Maintenant que vous avez tout ça, il vous manque qu'un truc, c'est de vendre. Donc nous, on est là pour vous aider à vendre. Et en plus, c'est gratuit. Parce que Facebook Shop, c'est gratuit. Et puis voilà, il continue aussi son constat en disant que le direct.
Rien n'est gratuit, Laetitia, dans ce monde.
Ah oui, mais je vais venir après.
On y va, ok, d'accord. J'adore. Tu teases.
Là, je vous le dis,
tu teases, là. C'est gratuit, no way.
Je vais donner,
Marco,
je vais
il fait pas dans le gratuit, il fait pas dans l'humanitaire. Mais ok. Il doit payer sa villa. Mais ok, vas-y.
Sa villa aux Canaries, ouais. Donc les direct to consumer, les D2C, sont mieux sortis pendant la crise, que les grands. Donc, pourquoi? Parce qu'ils avaient un accès direct aux consommateurs, une prise de parole notamment sur les réseaux sociaux et essentiellement sur les réseaux sociaux, qui est leur espace natif en fait. C'est pas l'espace natif, les boutiques sont pas l'espace natif des direct to consumer ou des DNVB. Et là, il dit un truc, mais prenez exemple, les gars, prenez exemple. Vous allez voir, c'est hyper simple. C'est hyper simple parce que Facebook, je vous le rappelle, c'est Instagram. Votre identité de marque, elle est sur Instagram. Vous allez poster des belles photos, de l'esthétique, vous allez vous raconter, faire du storytelling. Et puis comme ça, vous allez pouvoir petit à petit driver le customer, le client, en lui disant « tiens, ce produit est joli ». Donc vous allez pouvoir le mettre dans un panier que vous allez pouvoir retrouver sur Facebook. Et puis quand vous allez être sur Facebook, vous allez pouvoir vous dire « j'ai envie de contacter quelqu'un, donc je vais aller dans Facebook Messenger ». Vous allez contacter le commerçant, ou alors vous allez le contacter sur WhatsApp. Donc en fait, on se rend bien compte que vous avez tout un commerce unifié virtuel qui est créé par Facebook, mais il ne manque plus que l'option acheter add to cart, qui maintenant va être possible. C'est possible désormais uniquement aux États-Unis et ça va venir très prochainement. Vous allez pouvoir l'acheter. Et là, moi, j'arrive avec mes questions. Quid du paiement? Longtemps, on en a parlé aussi ici de la crypto-monnaie de Facebook qui est, devait être Libra, mais qui n'est plus Libra. De ce que j'ai lu, PayPal serait revenu dans la danse pour le paiement sur Facebook Group. Il y a aussi la question de la sécurité des données, voilà, puisque on se souvient de Cambridge Analytica. Dans la vidéo, Marcus en parle un petit peu, mais bon, il nous promet que tout va être sécurisé. Voilà, moi j'y crois pas trop. Et puis tu le disais, Adrien, c'est pas forcément gratuit parce que on sait que la première source de revenus de Facebook, qu'est-ce que c'est? C'est la publicité. Donc derrière, on imagine que on va pousser à mort ceux qui vont faire leur Facebook Shop à produire de la pub. La pub va augmenter. C'est déjà très cher sur Facebook. Là, je pense qu'on va atteindre des sommets. Donc il y aura forcément des coûts cachés. Mais ça reste une grande force de vente, de dire que c'est gratuit. Je vous propose tout un stack. Et puis, même si vous y connaissez rien, moi, je suis là. Il y a un autre truc que j'ai retenu, Adrien. Là, je pense que comme tu es un techos, ça va te faire plaisir.
Je suis un techos tout de suite.
T'es un geekos.
Ouais, j'ai juste allumé mon ordinateur. C'est pour ça que tu dis que je suis un techos. Ok, l'IA. Ouais.
C'est l'IA. Mark Zuckerberg dit, en fait, avant d'acheter, on va vous aider à projeter votre rouge à lèvres sur vous. On va vous aider à projeter votre vase dans votre salon. Donc, il va pouvoir proposer ça. Et ça me rappelle les techniques d'IKEA. IKEA le propose. Ça me rappelle les techniques de L'Oréal. L'Oréal aussi le propose. Donc, tout ce qui est prévisualisation, il n'y a rien de neuf. Le mec n'a rien inventé, hein, qu'on soit d'accord. Hein. Il a juste tout mis ensemble et il s'est dit, il y a un truc à faire. Néanmoins, il l'a fait, donc on le souligne. Et puis voilà, donc c'est dispo aux États-Unis, à venir très bientôt en France. Et oui, j'oubliais, il y a des gros partenariats qui ont été signés, notamment avec Shopify, WooCommerce, BigCommerce. Facebook Shop, c'est la simplicité, la gratuité et l'e-commerce compliant avec d'autres solutions. À ton avis, Adrien, c'est qui le gros concurrent maintenant de Facebook?
Dis-le-moi, j'ai peur de l'entendre.
Je sais pas, moi je me dis que ça y est, là, il reste plus que deux personnes dans la danse avec ce truc, c'est Facebook et Amazon, quoi. Là, il a balayé d'un revers d'autres acteurs du e-commerce. Son seul concurrent, c'est Amazon.
Oui, après qu'il le lance, ça ne veut pas dire que ça va marcher. Donc, c'est bien, l'initiative, elle est intéressante. Je trouve déjà, premièrement, très bien que l'e-commerce commence à s'immiscer partout. Tu peux pas aujourd'hui, et le confinement, ça a accéléré, parce que tout le monde a commencé à aller en ligne et à acheter. Donc, je trouve ça super. Quand on a lancé le podcast, et même il y a quelques années, quand on travaillait dedans, l'e-commerce, ça se développait, mais c'était pas partout. Là, aujourd'hui, encore la semaine dernière, tu parlais de voitures, quoi. Donc, j'aurais jamais imaginé ça il y a quelques années. Donc, c'est quand même ouf. Donc, ça, c'est plutôt bien, parce que tout le monde se positionne dessus, tous les acteurs. Autre chose, on entendait toujours sur les réseaux sociaux, tu es là pour convaincre, attirer, etc., acquisition, et puis ensuite, tu le fais venir sur ton site pour qu'il achète, et ben voilà, les frontières, elles commencent à disparaître
C'est
de plus en
fini.
plus. Tu vas pouvoir, peut-être un jour, tu vois une pub, en un clic, tu achètes le produit, ou tu es en magasin, tu as le produit dans les mains, et tu l'achètes aussi, etc. Enfin, tu l'achètes quand tu veux, et puis du coup, dans le parcours client, ça va aussi avoir beaucoup d'incidence, parce qu'il va falloir, à chaque moment du parcours, pouvoir lui proposer l'achat en un clic, ou l'achat très, très simple. Moi, j'ai quand même des petites réserves, donc je suis pas aussi emballé que ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai vu plein d'initiatives comme ça, et de Facebook aussi, il y a quelques années, quand ils voulaient lancer leur shopping. Je sais plus comment s'appelait la boutique qu'ils avaient. Bon, ça a fait un gros four parce qu'ils adressaient les grandes marques. Là, ils semblent adresser peut-être les plus petits comptes. La marketplace, parce qu'ils vendent déjà en ligne avec leur marketplace, ça semble bien marcher étonnamment, parce que moi, je l'utilise pas, mais en fait, autour de moi, j'ai beaucoup de personnes qui l'utilisent et qui me disent que ça marche. Mieux que le bon coin, donc ils ont dû apprendre pas mal de choses et ça a sûrement dû les aider à construire l'offre. En parallèle de tout ça, je sais pas si tu as vu passer la news, Laetitia, mais il y a aussi Pinterest qui a annoncé une intégration avec Shopify. En fait, le use case, il est similaire, c'est tu es sur Pinterest, tu vois un produit qui t'intéresse et sans avoir retourné sur le site de la marque, tu vas pouvoir acheter. Donc il y a de plus en plus, enfin les réseaux sociaux, soit ils ont les compétences ou soit ils vont s'allier avec des partenaires pour l'intégration. Et sur l'intégration, je trouve ça bien, mais ça peut être aussi limitant parce que là, tu as listé quelques. Donc, il y a peut-être ces 8, ouais, une petite dizaine de partenaires technologiques qui vont intégrer. L'idée, c'est que si tu utilises ces solutions-là, eh ben, tu vas pouvoir envoyer directement tes produits sur Facebook, dans la galaxie Facebook pour pouvoir le vendre. Donc, bon, si tu n'utilises pas ces produits-là, c'est quand même possible. C'est juste un fichier XML à envoyer. Donc, ça demandera un petit peu d'intégration et tu pourras le faire. Donc, là, on parle bien de pré-intégration. Si tu n'appartiens pas à cette liste, c'est du PR, c'est de la com. Si tu n'es pas dedans, tu vas quand même pouvoir intégrer tes outils. Enfin, de ma compréhension, ça ne poserait aucun problème. Moi, quand j'ai vu la news, j'ai fait tout de suite le lien avec tu sais, le concept des super apps qu'on entendait en Asie, en Chine, ces apps où tu vas pouvoir tout faire. Tu n'en as pas parlé, mais à l'avenir, ce qu'ils prévoient, mais je pense que c'est un avenir très proche, hein. Je pense que ça va se lancer là dans les prochains mois, c'est également la possibilité d'acheter directement sur WhatsApp, Messenger et Instagram direct aussi. Mais
ouais, mais ouais. Sur WeChat, tu peux le faire en Chine déjà.
Ouais, bah donc c'est l'idée que tu as une app, une super app justement dans laquelle tu peux échanger avec la marque, poser des questions, avoir les informations sur ton vol, etc. Par exemple, ou sur ta réservation, et également en chattant pour acheter tel ou tel produit. Donc directement acheter sans avoir à quitter cet environnement. C'est pour ça qu'on parle de super app, parce qu'elles sont en plus intégrées à plein d'outils. Et donc, j'ai l'impression qu'on critiquait, ou en tout cas, on expliquait beaucoup pourquoi ça n'arrive pas avec WhatsApp. Et bah, c'est certainement très compliqué, ça a pris du temps. Donc, intéressant de voir. Est-ce que ça va prendre? Et bah, c'est là où je suis un petit peu plus sceptique, franchement. Donc, on va voir. Sachant que dans mes prévisions, j'ai toujours tort. Donc, tu peux être sûr que ça va marcher, parce que je n'y crois pas. La première chose, c'est oui, les DTC, comme tu en parles, ces marques-là, qui reposent beaucoup sur les réseaux sociaux, bah, je pense que c'est du pain béni et ça va être super intéressant parce qu'en fait ça va enlever une étape, celle où tu montres les jolis produits pour les attirer sur ton site. Bah là tu vas pouvoir directement le vendre sur les réseaux sociaux. Je crois que ça va, il y a certaines marques comme ça qui vont vraiment bien fonctionner. La majorité, ça va être un canal de vente supplémentaire, donc elles vont tester, elles vont regarder. Pour les toutes petites marques, je sais même pas si elles ont les ressources pour pouvoir faire un truc comme ça. Bon, je sais pas si elles ont tant de visibilité ou elles vont pouvoir le faire. Moi, le gros point d'interrogation, il est est simplement dans le manque de confiance. Je vois pas du tout, enfin j'ai vraiment du mal à imaginer qu'on puisse, avec tout ce qui est en train de se passer, toutes les histoires, bah, t'en parles un peu de sécurité, mais au-delà de ça, c'est data privacy, l'utilisation des données personnelles. Alors même si on dit les gens, ils achètent, ils s'en fichent complètement, ils préfèrent avoir un produit moins cher, mais ils seront prêts, tu vois, que tu les traques, etc. Donc ça, c'est vrai aussi, la réalité, c'est que nous on parle beaucoup de ça, RGPD, mais les gens, les consommateurs, ils s'en fichent un petit peu. Cela dit, ils s'en fichent un peu, oui et non, parce que je pense que c'est des tendances qui sont réelles et qui vont grandir avec le temps. Et Facebook, enfin, tu vois, tout le monde est très, très sceptique quant à la capacité à Facebook de bien traiter tes données, d'être clean et tout ça. Et j'ai commencé à voir quelques commentaires qui sont allés un petit peu plus en détail dans les mentions légales, etc. Et il semblerait qu'en fait, quand tu acceptes... Mais bon, après, ça, c'est du langage juridique, et quand tu es une boîte américaine, tu te protèges. Mais tout ce que tu donnes, c'est propriété de Facebook, qui se protège à mort là-dessus. Donc, je sais pas si c'est un vrai argument à prendre en compte, parce qu'ils se protègent, c'est normal pour cette taille-là. C'est simplement, est-ce qu'il y aura l'usage, un, des côté marque et côté petite société, et deux, surtout côté consommateur. Facebook peut-être moins, Instagram, ouais, certainement. Et puis l'usage WhatsApp, pour le coup, je pense qu'il est tellement populaire que ça, potentiellement, ça peut bien marcher. Donc, je suis curieux de voir comment tout ça, ça va évoluer. Je suis un petit peu sceptique, parce que c'est toujours derrière, il y a Facebook, mais on ne peut pas leur retirer que ça, c'est un gros chantier qui sur lequel ils ont travaillé. Ça a été repris vraiment partout, dans toutes les, dans même des sites de non dito ou e-commerce, un peu grand public. Donc ça a gagné beaucoup de visibilité, et on va voir comment ça va prendre. Toi, t'y crois, Laetitia, ou pas? Tu penses que ça va cartonner?
Adrien, j'allais te poser cette question tout à l'heure. Est-ce que ça va cartonner? En tout cas, l'annonce me plaît déjà, puisque on attendait, moi j'attendais avec impatience ça, l'arrivée des réseaux sociaux sur ce qu'on appelait le social commerce, mais en fait on va être vraiment sur du vrai e-commerce. Après, j'ai les mêmes réserves que toi, et encore, moi je me suis dit, il y a encore plein d'autres choses à explorer, par exemple le post-achat, et c'était une question que j'avais notamment pour toi, comment ça va se passer, parce que tout ne peut pas se passer sur Messenger ou sur WhatsApp. Comme tu le disais, il y a un problème de ressources derrière, enfin le commerçant derrière, il peut pas tout gérer, et bien évidemment les données, parce que si t'as déjà été dans les CGV de Facebook, c'est déjà hyper compliqué, faut aller chercher des tutos quand même pour ne plus recevoir de la publicité ciblée, des choses comme ça. Mais alors là, ça va être un enfer, une vraie usine à gaz. Moi je le testerai. Malgré tout ce que je viens de dire, j'adore tester. J'ai hâte que ça arrive en France pour le tester. J'ai même envie, Adrien, qu'on fasse une boutique, le café de l'e-commerce, et qu'on propose des choses à la vente juste pour tester l'outil, tu vois.
Banco, avec des prix à 1 euro ou à le minimum légal possible. Mais j'y crois ou j'y crois pas. On verra bien, de toute façon. Mais c'est la partie store ou Facebook, parce que peut-être quelque chose qu'on n'a pas dit qui nous semble évident, mais l'idée derrière tout ça, c'est que tu restes sur Facebook, par exemple, tu achètes, donc tu as les produits de la marque, tu achètes tout, et t'as plus à sortir de ça. Donc ça veut dire aussi ça veut dire aussi, pour la marque, elle a pas, elle perd en données clients, en analytics, etc. Il y a plein de trucs qu'elle voit pas, elle contrôle pas l'image de la marque. Bon, on en a parlé 50 000 fois, donc ça, voilà. Mais ça, j'y crois moins. Pour les grandes marques, même les marques intermédiaires, peut-être les tout petits commerçants, peut-être, et encore. Par contre, ce que je crois beaucoup, là, pour le coup, c'est le coup du WhatsApp qui, s'il s'ouvre, on attend que ça. Enfin, moi, j'attends que ça. Tu vois, j'échangeais pendant le confinement avec mon dentiste. Il a un compte WhatsApp Pro, et j'ai trouvé ça magnifique. Et donc, demain, les commerces ont ça. Je trouvais ça super, et ça peut changer la vie, pour le coup.
Allez, next. Adrien, je crois que tu voulais nous parler de ton truc préféré.
Oui, mais non, mais je vais pas être chiant, parce que je sens que ça va endormir tout le monde. Il y a que moi qui est excité
Forrester.
Par ça. Forrester qui a lancé son rapport. Je crois qu'on avait parlé du Gartner il y a quelques mois. Enfin, c'était en septembre. Et donc là, c'est quoi? C'est les grands analystes qui tous les 16-18 mois lancent leur rapport sur quelles sont les plateformes e-commerce. Alors ils font ça surtout sur le CRM, les PIM, les machins, les trucs, tous les outils technologiques, on va dire. Et ils les notent. Ils prennent les plus gros, ils les notent en fonction de profondeur de l'outil, donc fonctionnalité, la taille de l'entreprise, est-ce que les clients sont contents, quelle est la stratégie, la vision, la sécurité, machin. Il y a plein de critères, et puis ils les pondèrent, ils mettent ça, et ensuite ils te font ça dans un graphe. On a partagé le graphe d'ailleurs, les résultats dans le groupe WhatsApp, donc n'hésitez pas à le rejoindre, je fais encore un peu de pub. Et qu'est-ce qu'on a? Donc il y a deux rapports qui ont été lancés en parallèle. Le premier, c'est le B2C commerce, donc les plateformes B2C et les plateformes B2B. On mettra les liens, donc vous pouvez les regarder. Peut-être peut-être ce qui est intéressant, c'est dans le B2C, pour les leaders, tu as Adobe, Salesforce avec Demandware, Salesforce Commerce Cloud et Commerce Tools. Et dans la section B2B, en leader, tu as Salesforce et Adobe. Adobe avec Magento et Salesforce dans le B2B avec CloudCraze. Du coup, on retrouve beaucoup de changements par rapport aux autres années. Ça continue à évoluer. On voit certains acteurs qui ont réussi à consolider leur position et d'autres, tels que SAP ou Oracle, qui sont en train de perdre de l'attraction sur le marché. Des nouveaux acteurs qui commencent à apparaître. Un Commerce Tools qui n'existait pas il y a encore quelques années ou qu'on ne voyait pas du tout commence à apparaître et commence à être à côté de ces mastodontes. Il y avait deux choses que je voulais souligner. Peut-être là, les trois qu'on a cité, et vous avez le rapport, dans le rapport tous les détails, Adobe, ce qui est mis en avant, c'est la communauté très forte, et on sait que la communauté Magento, elle est toujours très très forte. On n'en parle pas beaucoup dans le podcast, mais en réalité, cette communauté, elle a une dizaine d'années, et elle est très très forte, surtout en France d'ailleurs, elle est partout, mais en France, je sais qu'il y avait une communauté très très forte là, sur Magento et qui continue à être là. Salesforce, la fonctionnalité, des fonctionnalités très fortes, très puissantes, mais complexité d'intégration, et Commerce Tools, société allemande qui a été créé il y a quelques années, qui provenait de Rêvé, je ne sais pas comment ça se prononce, mais si c'est à l'allemand, c'est Rêvé.
Et retailer allemand très exactement. Connu.
Et donc, ils avaient développé un outil en interne, ensuite ils ont splitté cette business unit qui s'est développée, qui est devenue autonome, qui est donc Commerce Tools, et qui propose une solution de commerce headless et qui s'adresse surtout aux clients qui sont matures. Voilà, pour essayer d'être concis, je ne vais pas entrer trop dans les détails, même si je pourrais en parler pendant une heure. Peut-être la deuxième chose que je voulais souligner, Laetitia, qui pourrait être intéressant pour tout le monde, ce sont les tendances. Parce qu'en regardant les superbes solutions du marché, on se rend compte vers où vont ces logiciels et quelles sont les tendances. La première, c'est les clients ont des demandes très fortes en termes d'intégration et de facilité d'intégration. C'est un des challenges en fait de ces outils-là. Tu as de plus en plus d'outils, ils sont de plus en plus complexes. Encore que de plus en plus complexe. On va dire que ça, c'est complexe, c'est pas vraiment ça, mais ils vont proposer des solutions qui sont très avancées. Il va falloir intégrer ces solutions entre elles. Ce qui m'amène au deuxième point, les solutions, elles doivent communiquer avec d'autres systèmes. Et on voit avec l'e-commerce qui s'intègre partout. C'est plus juste gérer les promotions et ton panier en ligne, mais il va falloir s'intégrer à un OMS. Il faut que tu le proposes en standard ou soit que tu t'intègres à une solution tierce. Et parfois, cette solution tierce, ça va être un concurrent qui va avoir aussi une solution e-commerce. Donc, il faut une interopérabilité entre les différents systèmes, même s'ils sont concurrents. Donc, c'est ça où ça devient assez tricky et amusant. Donc, il citait notamment les OMS, les DAM et les PIM que tu adores, Laetitia, et également ensuite, dans une moindre mesure, mais tout aussi important, la personnalisation et les outils marketing. Donc, vraiment, le trio OMS, DAM, PIM, c'est quelque chose qui était particulièrement important pour ce genre de solution et d'intégration. Le troisième point, c'est on a vu il y a quelques années, je ne vais pas refaire l'histoire parce que j'ai l'impression que je le fais à chaque épisode, mais on était sur du on-premise, tu installes ton logiciel sur un serveur, ensuite tu vas le bouger sur des serveurs dédiés, ça va être du on-demand, tu vas ensuite tout basculer vers le cloud en SaaS et on arrive dans cette nouvelle génération de architecture microservices où tu vas vouloir avoir une plateforme qui évolue très facilement et tu veux plus avoir en tant que marchand des migrations une fois par an, une fois tous les 6 mois ou une fois par trimestre, tu vas avoir des nouvelles fonctionnalités et il faut entrer dans des projets de migration. Ça, c'est l'ancienne époque. Aujourd'hui, ce qu'on demande à ces solutions et aux clients, enfin ce que les clients demandent, c'est d'avoir des évolutions constantes et pas avoir un gros monolithe que tu dois faire évoluer, mais des parties de solutions. Si tu as développé ton moteur de règles ou de moteur de recherche interne ou quoi que ce soit, c'est cette partie-là qui va être mise à jour sans casser le reste. Et enfin, le dernier point, c'est l'expérience utilisateur, mais côté métier. Donc l'utilisation de l'outil et particulièrement par rapport aux deux premiers points que je t'ai cités tout à l'heure, quand tu veux intégrer des pim-pam-pom, des DAM, des OMS, etc., je sais parce que tu travailles dedans, c'est pour ça que je te fais toujours la blague avec les PIM. tu vois, tu as plusieurs outils. Si tu as 10 interfaces, c'est compliqué à gérer parce que si tu dois mettre à jour un prix, il faut aller dans différents outils pour aller changer la description, changer le prix, la liste de prix, le publier sur le site web, appliquer des promotions, etc. Ça peut être le bordel. Et donc là, un des challenges, c'est également de proposer une interface unifiée, simplifiée, donc simple, efficace, mais également qui va intégrer les différents outils. Donc voilà un petit peu les tendances à haut niveau. Je trouvais ça intéressant et les liens seront dans la description.
J'ai une question. Oui, est-ce que tu crois que tu viens de le dire, oui, Forrester et Gartner publient très régulièrement leurs dernières analyses. Tu crois que la prochaine analyse à paraître, je pense que ça va être septembre, quelque chose comme ça, ça va être modifié complètement par la crise?
Non, pas du tout. Je pense pas du tout. Ça va peut-être accélérer certaines tendances, mais je pense pas, parce qu'en fait, la crise, elle a fait que accélérer des choses qui existaient déjà. Enfin, je vois pas d'innovation ou de nouveauté complète. Alors, je te dis ça, oui et non, parce qu'en fait, j'ai écouté justement une interview d'un gars de Salesforce qui expliquait que tu vas devoir mettre en place chez les marques des choses, par exemple, quand tu prends l'ascenseur, comment monitorer combien de personnes vont dans l'ascenseur, des moments où tu vas venir dans le hall, quand est-ce que tu vas travailler, etc. Pareil pour les clients, quand tu essayes un produit en magasin, là c'est plus Salesforce, hein, mais je sais plus où j'entendais ça, mais en Chine je crois qu'ils font ça, quand tu essayes un produit en magasin, bah, qu'est-ce que tu fais avec le produit? Tu peux pas le remettre sur l'étalage parce que là du coup, distanciation sociale, etc., virus et compagnie, ça peut être compliqué. Du coup, il va falloir trouver des manières, aujourd'hui ils le mettent en quarantaine, donc quelques heures ou quelques jours, ils le mettent de côté avant de le remettre sur l'emballage, mais tout ça, il va falloir des nouveaux outils. Et d'ailleurs, certains communiquent autour de ça. Mais pour répondre à ta question, est-ce qu'il y avait des nouvelles choses qui vont arriver dans ces rapports sur des plateformes e-commerce? Je pense pas. Je pense pas. Ça va peut-être arriver, mais pas aussi rapidement. Et si ça arrive, ça sera des accélérations de digitalisation in-store ou tracking des clients, ce genre de choses, à mon avis. On arrive à la section Amazon, la World Company par excellence, qui sauve le monde pour certains ou accélère sa perte pour d'autres. Indispensable pour beaucoup, diabolique pour une minorité, l'Amazon fait le point sur les actualités chaudes d'Amazon, le site e-commerce leader en France et dans le monde occidental. Et Laetitia, tu avais deux actualités à nous partager.
Ouais, j'ai deux news Amazon. La première, je vais être très rapide dessus, c'est Jeff Bezos qui a décidé de se lancer, alors c'est pas la première fois, mais en tout cas là il retente son petit coup de poker dans le monde de la fashion, mais de la fashion haut de gamme, la fashion luxe. Adrien, est-ce que tu sais quels sont, dans le domaine de fashion retail sur Amazon, les produits les plus vendus, les plus recherchés et les plus vendus?
Les hauts, les pantalons, non, j'en sais rien, les chaussures peut-être, ouais. Non, je ne sais pas.
Non, t'as raison, c'est des t-shirts. Donc, ouais, je crois que c'est un lot de t-shirts un peu dégueu, genre t'as un noir, un vert, un gris, un blanc.
Mais dégueu pour toi, la fashion stylista, mais bon.
Non, mais après, t'as des caleçons. D'accord. Et en troisième, t'as les Crocs.
Ok.
Ça, c'est les produits les plus recherchés, les plus vendus. Jeff Bezos, il a envie de redorer son image. Je sais pas si t'as remarqué, mais lors de ses dernières apparitions, le mec, c'est pas Steve Jobs, c'est pas Mark Zuckerberg. Il va mettre des jolis, des beaux costards qui lui sied à merveille. En gros, Jeff, il s'est rapproché des grands créateurs parce qu'il a envie de les attirer sur sa plateforme. Il a plus envie qu'Amazon soit un peu, et cette image un peu cheap de, je veux un truc qui me va bien, pas cher, et puis un peu slow fashion. Non, il veut rentrer dans le luxury, le haut de gamme, le design. Donc, il a développé avec Vogue, Vogue qui est un grand magazine qui appartient à un grand groupe de mode et de luxury. Je crois que c'est américain ou anglais, je ne sais plus. Il a développé un partenariat pour développer sur Amazon. Comment est-ce que ça s'appelle déjà? Ça s'appelle Vogue en association avec Fashion Amazon. C'est disponible aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Et en gros, vous avez un catalogue disponible de certaines grandes marques. Donc là, on n'est plus sur des petits prix. On est vraiment sur du très, très, très haut de gamme. Donc, ce que je disais, c'était que notre ami Jeff, il a envie de redorer un petit peu son image, on comprend, il a envie aussi d'attirer une autre clientèle, il a envie de vendre aussi d'autres choses. Et parmi ces autres choses, ce sont des choses de designer, c'est de la beauté, c'est de l'esthétique. Parce que souvent, lorsque vous voulez acheter des choses comme ça, soit vous allez sur le site propre de l'enseigne, soit vous allez sur des marketplaces. Et... quelle est la meilleure marketplace au monde? Pour le moment, ça reste Amazon. Donc, à voir si ça fonctionne. Il a déjà essayé, ça n'a pas fonctionné auparavant. Et à voir si ça va se développer ailleurs en Europe, notamment en France.
Les joint ventures comme ça entre sociétés qui vont développer une collection, ça existe déjà depuis quelques années. C'est fun parce que ça t'amène des clients de chacune des... comme des crossovers, quoi. Tu ramènes, ouais. Tu fais des trucs sympas. C'est rarement sur la durée. En général, c'est c'est sur une collection, sur une période. Donc là, sur Rennes Neuve. Après, il faut que ça soit deux marques qui vendent un peu une vision similaire. Tu vois, si tu prends un truc cheap avec un truc luxueux, bah, ça ne marchera pas trop. C'est en cela qu'avec Amazon, je suis un peu peut-être sceptique. Mais en tout cas, si pour redorer une image, tu as raison, il faut commencer quelque part et il faut faire quelque chose. Donc on va voir si ça fonctionne. Mais à l'image des 50 000 initiatives qu'ils font chaque semaine, qu'on couvre chaque semaine.
Oui, c'est clair.
Voilà,
c'est...
Bah, pareil, je suis un peu sceptique. On verra bien comment, ce que ça va donner.
Elle est bonne ou mauvaise nouvelle, Amazon entame la réouverture de ses entrepôts en France.
Bravo! Welcome back! Yes!
Bon, et je dois l'avouer, mea culpa, ça fonctionne les gars, j'ai essayé.
T'as acheté dès le premier jour, je parie. L'anti-Amazon, Laetitia, a acheté le premier jour. T'as attendu que c'est heureux et ting! T'avais tout dans le panier déjà, ouais, avoue.
Ouais, et ben, et tu sais que ça a été mon meilleur indicateur, c'est lorsque j'ai reçu ma petite notification de ah, c'est en cours d'expédition. Et là, j'ai regardé, effectivement, les entrepôts ont ouvert. Et franchement, dans l'heure qui suivait, je pouvais suivre ma commande.
Donc, ton Amazon Detox, elle a duré que deux mois. Bravo, Laetitia. À nous dire chaque semaine
reprendre.
Qu'il faut faire du do it yourself, du e-commerce, etc., reconditionner, etc. Bravo, Laetitia. T'es un exemple pour nous tous. Bon, on est très content qu'ils aient rouvert les entrepôts parce que ça veut surtout dire qu'il y a eu des règles qui ont été mises en place.
Voilà,
ils ont trouvé un accord avec les syndicats,
dire.
Etc. Quoi. Blague à part.
Ils sont mis d'accord
et puis les
gens
vont retourner travailler.
J'espère que les salariés
vont
être protégés.
Et puis ils vont retourner travailler, etc. Donc tout ça, c'est plutôt cool. On passe maintenant à la rubrique des news simples et funky. Des news simples dans un format funky.
Allez, le spécialiste du feedback client, Hello Customer, lève 6 millions d'euros.
Walmart annonce qu'ils vont arrêter le site Jet qu'ils avaient racheté 3 milliards de dollars en 2016.
Alinéa et Nafnaf et Conforama sont en très grande difficulté. Nafnaf est placé en redressement judiciaire, Alinéa vient de déposer le bilan et Conforama en est proche. Mais tu sais que Conforama réfléchit quand même à racheter Alinéa.
Shopify annonce un compte bancaire gratuit pour ses clients professionnels qui s'appellera Shopify Balance.
Et enfin, Content Square, les Français Content Square viennent de lever 173 millions.
Millions.
Bravo,
de quoi
les gars.
Dollars, euros.
Ah mince, oui.
On
ouais,
va dire
si j'ai vu
euros,
deux chiffres, je crois que c'est euros.
Voilà,
c'est euros,
on va
c'est
être positif. Euros.
Bon, le Café du Mytho, vous connaissez la rubrique. Le Café du Mytho, c'est la rubrique où on dessert un carton jaune ou un carton rouge sur quelque chose qui nous a fait réagir. C'est notre coup de gueule de la semaine. Et aujourd'hui, c'est Adrien qui a envie de gueuler et qui veut nous parler d'EasyJet. Adrien, EasyJet, carton rouge, carton jaune, carton noir.
Eh ben, je vais mettre un carton jaune, mais pas à EasyJet. Et je voulais justement te feinter. Donc la news, c'est que les données personnelles de 9 millions de clients, ça fait le tour du web, d'EasyJet ont été piratées après une cyberattaque. 9 millions, c'est énorme. Il y a eu plein de réactions qui peuvent suivre face à cette news. Alors moi, tu sais que je suis un philosophe. Je suis comme le cyclope qui est à l'entrée et qui va te donner une énigme avant d'entrer. Tu peux prendre position très facilement et passer dans un extrême, mais je voulais un petit peu tempérer des deux côtés. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement il y a eu des clients qui ont perdu, en tout cas la mise à disposition des adresses email ont été faites. Il y a même des données de cartes bancaires, mais on parle de 2200 personnes qui auraient perdu leurs informations bancaires. Donc sur 9 millions déjà, 2200, c'est très très peu, mais c'est terrible, c'est pas du tout, enfin voilà, c'est une vraie brèche de sécurité. Il y a deux positions, Laetitia, qu'on peut avoir. La première, basique, quand tu lis les news ou juste les titres, c'est bou EasyJet, c'est nul. Ils sont connus pour faire des coupes dans tous les sens. Ils avaient annoncé il y a quelques mois vouloir faire voyager debout pour gagner plus de place dans les avions. Certainement, la sécurité, c'est pas une priorité. Ils ont coupé dans les budgets et ils ont dû couper dans les budgets sécurité pour pas avoir le staff, les formations, les outils. Et du coup, c'est de l'autre faute. Et en plus, quand tu lis ces news-là, tu mets la faute sur le pirate. On est les victimes, c'est les pirates qui ont fait ça, etc. Donc voilà, une partie de la position. L'autre côté, c'est de se dire, bah, en fait, EasyJet, ils sont entre guillemets victime en tout cas, c'est quelque chose où ils peuvent rien faire. Tu te fais pas pirater si t'as rien à voler, si on a rien à te voler. Donc on regarde tous ceux que tout le monde s'est fait, enfin tout le monde s'est fait pirater. Il y a des sociétés qui ont énormément d'argent et pour le coup qui sont très matures, qui font très attention, qui se sont fait aussi pirater. On va pas parler du petit commerçant qui s'est fait pirater parce qu'on s'en fiche complètement. Il va pas y avoir de mise à, enfin on va, ils seront pas la cible d'organisation. On n'est pas en train de parler d'un geek nerd boutonneux qui est en train de pirater EasyJet. Là c'est vraiment des organisations. Il y a des rumeurs et là j'ai pas envie de parler des rumeurs qui incriminent certains pays. Pour le moment, il n'y a pas de preuves, mais ce qu'on peut être certain, c'est que ce sont des vraies organisations et qu'il y a des moyens derrière. L'ingénierie sociale, c'est le fait, tu sais, de te faire passer pour quelqu'un. En fait, la sécurité, c'est énormément de choses et au-delà des outils, quand tu vas passer par des personnes, des gens qui travaillent, qui sont stressés, qui sont fatigués, des fois, ils vont laisser leur session ouverte ou ils vont mettre un mot de passe facile, etc. Ou tu vas les appeler, tu vas te faire passer pour quelqu'un, etc., qui a besoin d'une information, etc. Et là, tu peux mettre tout l'argent ou la technologie, ça va pas faire grand chose, parce que la négligence ou les personnes, tu vois, elles sont faillibles. Alors tu peux réduire le risque, et c'est en ça que tu dois mettre en place des moyens, des process, des outils, etc. Ça passe par des formations, notamment, ou des certifications, des audits, etc. Pour réduire les risques, tu peux avoir de la traçabilité de toutes ces opérations qui sont sensibles, mais tu pourras jamais anéantir ce risque complètement. Donc je dirais carton jaune d'un côté et de l'autre. Du côté des anti-EasyJet qui vont dire ils ont tout coupé, c'est pas bien fait, mais on va dire ils auraient dû faire attention. Et de l'autre côté, du côté EasyJet justement, qui aussi mais toutes les sociétés doivent vraiment prendre conscience que non, la sécurité ça va pas te rapporter de l'argent, mais quand tu vas être exposé comme ça, mais qu'est-ce que ça va te faire perdre? Tu vas peut-être mettre la clé sous la porte, ou en tout cas tu vas mettre des années avant de recouvrir.
Ouais, et je pense que EasyJet est pas loin de mettre la clé sous la porte. Non, là, je lance une rumeur, mais avec cette crise du tourisme et de l'aviation, ça risque d'être compliqué. Bon, ils avaient pas besoin de ça, quoi. Et on passe tout de suite à notre rubrique Passe-passe le mic. Passe-passe le mic, c'est la rubrique où on passe le micro à un ou une invitée pour nous faire part de son expérience ou de son expertise.
Et aujourd'hui, enfin plutôt hier, on a reçu Viviane qui est venue nous parler des NVB. Elle nous a défini ce que c'est, on lui a posé plein de questions, on lui a posé toutes les questions qui nous passaient par la tête. Vous verrez, c'est un échange très très riche. On était ravis d'accueillir Viviane, elle va se présenter, donc on va lancer l'extrait tout de suite et on en discute. Oui, Lucia, tu voulais rajouter quelque chose avant?
Ouais, je voulais dire qu'on avait reçu une question en amont de la préparation de cet épisode avec Viviane sur les DNVB, et puis c'est une question d'une auditrice. Nous avons posé la question, Viviane y répond, donc voilà, n'hésitez pas à nous poser des questions, on les pose assurément. Et aujourd'hui, dans notre épisode, nous recevons Viviane. Viviane est experte des DNVB. Viviane, je te laisse la parole, te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens, et puis ce que tu fais avec les DNVB.
Bonjour Laetitia et bonjour à tous les auditeurs du podcast. Donc effectivement, je m'appelle Viviane, j'ai écrit un livre qui s'appelle « DNVB, les surdoués du commerce digital » qui est paru aux éditions Maxima il y a un an et demi. Et j'ai créé aussi une fabrique de DNVB qui s'appelle Brand Alchemy. Et j'accompagne donc les startups, les porteurs de projets, mais aussi les groupes plus traditionnels, les marques plus traditionnelles, à se positionner dans une économie digitally native vertical brand ou dans l'économie direct to consumer. Voilà ce que je fais au quotidien depuis maintenant un petit moment.
Alors, on va rentrer dans le vif du sujet pour qu'il n'y ait plus jamais de confusion dans ce podcast, dans toutes nos publications et dans tout cet écosystème. Viviane, qu'est-ce que c'est qu'une DNVB ?
Ah, le rêve. Déjà, bravo Laetitia parce que tu as bien prononcé l'acronyme. J'entends encore des gens qui prononcent l'acronyme dans tous les sens. Alors, c'est pas moi qui l'ai inventé cet acronyme, c'est Andy Dunn, qui est le fondateur d'une des premières DNVB américaines, puisque les DNVB sont nées aux États-Unis dans la Silicon Valley dans les années 2007-2008, au moment juste après la première vague d'entreprises du e-commerce qu'on connaît dans les années 95, et dont il était resté très très peu très peu de rescapés. Donc c'était par exemple les seuls rescapés, c'est eBay, Netflix qui n'était pas du tout d'ailleurs le Netflix qu'on connaît aujourd'hui, mais qui proposait des DVD, des livrements de DVD à domicile, et eBay. Et en fait, l'idée d'Andeden, c'était de créer un nouveau modèle de commerce qui remplace le retail physique traditionnel, parce qu'ils trouvaient que le retail n'avait pas changé en plusieurs décennies. C'est un expert du retail. Que l'expérience n'était pas très agréable, l'expérience boutique n'était pas très agréable, et qu'il était très geek. Donc, ce qu'il voulait faire, c'est qu'en fait, comprenez que le milieu des startups est arrivé à maturité, le digital, l'internet est arrivé à maturité, qu'il y avait suffisamment d'outils, de briques technologiques prêtes pour pouvoir recréer une expérience hors pair en étant une startup digitale qui vendrait des biens de consommation et en particulier de la mode pour la première. Il a posté donc une analyse sur Medium, sur son blog Medium en 2016, pour expliquer aux fonds d'investissement en quoi les DNVB étaient différentes du e-commerce et pourquoi il fallait investir dans ce modèle. Digitally native, moi j'insiste beaucoup sur le fait qu'on ne dise pas digital native, parce que sinon les gens comprennent que ce sont des marques qui s'adressent à la génération digitale native, ce qui n'est pas le cas. Ça veut dire que ce sont des marques qui naissent, qui s'expriment, qui créent leur communauté, qui expriment leurs valeurs et qui vendent évidemment d'abord en ligne et essentiellement en ligne. C'est-à-dire qu'on n'a pas dit que c'est un modèle qui était que c'est digital, donc ce ne sont pas forcément des pure players. Elles peuvent avoir des expressions physiques, des pop-up, des appartements comme Cézanne, etc. Mais l'essentiel des ventes va se faire en ligne. Ça, c'est pour le digital native. Et Vertical Brand exprime le circuit court, c'est-à-dire qu'on coupe les intermédiaires en amont et en aval. En amont, être le plus transparent possible, pour obtenir une chaîne de valeur la plus courte possible et du coup connaître l'ensemble de ses fournisseurs. Et du coup, raccourcir les prix, puisque à chaque fois qu'on ajoute un intermédiaire, on le paye, donc finalement ça pèse sur le coût final du produit. Et ensuite, être direct to consumer, ça veut dire parler directement avec ses clients sans intermédiaire de distribution, de manière à connaître sa communauté, à pouvoir collecter de la data, à l'analyser et surtout à co-construire le produit avec sa communauté. Donc, une fois qu'on peut résumer ça à dire que ce sont des startups qui vendent des produits, leurs produits et pas les produits des autres, ce qui les distingue aussi des plateformes, qu'elles font un gros travail digital, un gros travail de communauté et qu'elles sont customer-centric. Donc une fois qu'on a dit ça, on voit bien qu'on n'a pas affaire à des Instabrands. L'Instabrand, c'est une marque qui va juste utiliser comme canal d'acquisition principal et parfois même maintenant comme canal de vente depuis que c'est possible, Instagram. Donc il n'y a pas spécialement d'idée de communauté, puisque moi je ne considère pas qu'avoir des followers ou avoir des gens qui répondent soit vraiment engager une communauté. Ça, c'est la première chose. Et puis souvent, dans les Instabrands dont on parle le plus, il y a en fait des marques d'influenceurs. Donc une marque d'influenceurs, ça veut dire que derrière, on a un groupe industriel qui va proposer à un influenceur ou à une influenceuse d'utiliser son réseau pour vendre très très vite un très grand nombre de produits à son nom, qui seront siglés à son nom. Donc là, il n'y a pas de construction de marque non plus. On vend des produits au nom de l'influenceur. Et l'idée, c'est de faire très vite un gros buzz, de manière à ce que cette marque soit rachetée par un grand groupe derrière. Donc c'est vraiment plutôt une histoire financière qu'une histoire de communauté. Voilà, j'espère que c'est clair.
Est-ce que tu vois que cette définition qui avait été postée en 2016, elle a évolué, et est-ce qu'elle est amenée à évoluer? Et la deuxième corollaire à cette question, c'est, tu n'as pas parlé directement d'impact environnemental, est-ce que c'est des choses qui font partie de la définition d'une DNVB ou non?
Alors, pour répondre à ta première question sur la définition, en fait, aux États-Unis, c'est même assez rare maintenant qu'on lise l'acronyme DNVB. Les gens n'ont pas trop accroché, donc il y a des fonds spécialisés qui continuent à en parler, mais sinon, on parle plutôt de direct to consumer, sachant que du coup, ça évite d'avoir à faire des distinguos, mais qu'on met tout dans le même panier. Donc direct to consumer, c'est encore autre chose, parce que les DNVB sont un modèle dans le grand modèle direct to consumer, sont un sous-ensemble du modèle direct to consumer. Dans le modèle direct to consumer, tu peux avoir déjà à l'origine, avant même le digital, Apple est un modèle direct to consumer, Zara est un modèle direct to consumer. Zara, plus que tous d'ailleurs, ne vend pas ailleurs que dans ses magasins. dans ses propres boutiques. Et ensuite, tu peux avoir ce genre de modèle en digital. Tu peux avoir des marketplaces qui sont du coup direct to consumer. Si tu prends Solyndro, par exemple. Mais ils ne vendent, encore une fois, la différence avec... ou Birchbox, par exemple, la différence avec, avec une DNVB, c'est qu'ils ne vendent pas leurs produits. À partir du moment où tu vas être une DNVB, tu ne vends que tes produits. Ça, je pense que c'est vraiment la distinction. Pour répondre à ta deuxième question, la sustainability, non, ce n'est pas une obligation. C'était pas d'ailleurs dans... Mais si, enfin, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai expliqué, le fait d'avoir raccourci la chaîne de valeur en amont permet justement de pouvoir accéder à toutes les informations et tracer ces produits depuis les matériaux bruts, si on parle de mode ou si on parle de cosmétiques, mais bon, tracer l'origine des produits, même en food. Et la première, en fait, dans l'histoire des DNVB, il y en a une qui l'a tout de suite inscrit dans son cœur de business, c'est des Reformation. Et Reformation a pour mission d'être la première marque de slow, de fast fashion, sustainable, donc slow quelque part, c'est-à-dire de vendre des vêtements à la mode, mais en même temps qui soit complètement une entreprise complètement responsable de A à Z. Et qui trace son empreinte carbone, mais pas simplement pour les vêtements, mais pour l'ensemble de ses activités. Ça, c'était Reformation en 2009. Et puis, il y a eu la grande révolution en 2010, qui est Everlane. Everlane, c'est Michael Pressman qui a fondé cette DNVB avec sa mission, qu'il a carrément nommée Radical Transparency. Et cette transparence, cette sustainability, il l'a mis au milieu du discours de sa marque au moment où on sortait du Rana Plaza et où les gens s'apercevaient que le système de la mode était complètement opaque, qu'on ne savait rien de l'approvisionnement, qu'on ne savait rien de la provenance et des gens qui travaillaient sur nos vêtements. D'ailleurs, personne ne s'en préoccupait trop. Et il a eu un discours qui, à l'époque, a fait l'effet d'une bombe et qu'il a réussi à faire comprendre aux clients, à simplifier à l'extrême avec une infographie dans laquelle il avait résumé en fait la chaîne de valeur autour du t-shirt, donc l'amont et l'aval, le nombre d'intermédiaires, le prix de vente classique et son prix de vente à lui, sans marketing et en étant entièrement sustainable, et où il arrivait à un t-shirt à $15 versus à un t-shirt à $50 dans le prix public. Et son discours a été tellement percutant qu'il a été copié, mais pas simplement dans la mode, il a été repris dans toutes les verticales industrielles, donc dans la food, dans la cosmétique, si bien qu'aujourd'hui, on a énormément de marques qui se disent DNVB, mais qu'en fait, ne sont que des enveloppes vides, des copycat marketing, je vais être un peu dure, de ce modèle-là. Et on a un certain nombre de DNVB qui sont bien tech, mais qui ne racontent plus grand-chose. En termes, le why est vraiment affadi.
Très bien. Alors Viviane, je ne sais pas si tu le sais, mais nous avons un groupe WhatsApp dédié au podcast et nous avons une auditrice qui nous a posé une question totalement en lien avec ce que tu viens de dire. Je vais citer la question. J'ai l'impression que pour vivre en ce moment, une DNVB doit devenir un média et plus seulement une boutique, car elle ne peut plus vendre. Est-ce le cas? Et comment est-ce qu'elle doit prendre la parole, surtout quand elle ne l'a jamais fait? Et surtout, comment choisir le sujet?
C'est une excellente question et ça montre bien combien les DNVB sont pas, le modèle n'est pas vraiment compris et connu. Parce que justement, mais une digitally native vertical brand, comme je le disais tout à l'heure, c'est digitally native veut bien dire que sur l'espace digital, va s'emparer de tout l'espace digital de manière médiatique. Ne va pas se contenter de faire un site vendeur avec une page Instagram. Donc, une DNVB qui fait bien son travail est aussi un média. Et c'est vraiment la différence avec un Instabrand, avec son e-shop. C'est pourquoi ? Parce que déjà, quand on est une start-up, parce que ce sont des start-up, et quand on fait un travail de start-up, on est sur un travail de growth marketing. Donc, on n'est pas sur un travail que d'acquisition, comme on fait traditionnellement. On est aussi sur un travail de rétention, de fidélisation. et on cherche des ambassadeurs et on cherche à déclencher boule de neige et bouche à oreille. Donc, on va, en fait, comme on n'a pas beaucoup d'argent, on va quand même faire des contenus, travailler plus le contenu naturel que le contenu payant. Et c'est assez, d'ailleurs, amusant de voir à quel point, justement, les spécialistes du marketing sont toujours très surpris de voir à quel point certaines DNVB ont beaucoup de succès, arrivent à avoir une croissance incroyable sans dépenser parfois quoi que ce soit, en tout cas dans la première année, en payant. Donc, on va travailler les contenus naturels, on va travailler les backlinks et on va essayer de servir la communauté avec des contenus qui sont les plus pertinents et qui aident la cause de la marque. Donc, pour ça, bah, il faut avoir une cause. Pour ça, il faut avoir un purpose et un why très fort. Donc, c'est pas la peine de l'inventer. On peut pas l'inventer a posteriori. Ça fait vraiment partie des éléments de réflexion a priori avant lancement de la marque. Si elle a vraiment une raison d'être, elle va vite trouver quels sont les messages sur lesquels elles vont émettre. Donc, je peux donner, par exemple, le cas de Nolensa, qui est une DNVB de parfum qui s'est lancée l'année dernière, qui a été fondée par Anaïs Grus et Laurie Mélotte. Eh ben, Nolensa, elles ont compris que une partie des gens s'étaient détournés du parfum parce que la parfumerie sélective, c'est pas très fun, en fait. Faire ses courses dans un Marionneau ou un Sephora, c'est pas une ambiance qui plaît à tout le monde. Tester des parfums les uns après les autres sur sa peau, on finit par plus rien comprendre. Et surtout, vous avez affaire à des vendeuses qui sont pas spécialement des spécialistes, qui n'ont pas spécialement été formées pour autour du parfum et qui donc vont pas vous donner forcément les renseignements sur les jus, sur l'origine, sur l'histoire du produit, etc. Donc Nolensa, elles ont depuis le début envie de faire de la pédagogie et de donner envie aux gens qui sont sortis de l'univers parfum d'y revenir. Et elles ont un podcast qui s'appelle le podcast Olfactif, où elles sont des invitées, où elles vont éduquer les consommateurs autour de l'univers olfactif. Et elles organisent des rencontres dans la vraie vie pour animer la communauté. C'est pas forcément la peine d'avoir des points de vente pour parler, pour rencontrer la communauté. Ces rencontres, moi j'ai eu l'occasion d'y aller, c'est un peu comme une académie, c'est-à-dire que elles ont des invités qui vont nous rendre nous éduquer vraiment à ce qu'elles sont en train de faire. Et j'ai vu dans leurs rencontres des étudiants qui venaient et qui disaient, des étudiants en parfum, en parfumerie, en haute parfumerie, qui disaient que, en fait, ces rencontres-là, n'étaient pas organisées par leur école et qu'ils apprenaient plus à ce moment-là que dans leurs études. Donc, c'est quand même assez fascinant ce qu'on peut faire quand on est une marque qui a une vraie raison d'être et une prise de parole qui découle de la mission. Les DNVB qu'on connaît le mieux, qui surperforment, avaient un média avant même leur lancement. C'est le cas, si reprenons l'exemple de Glossier, il y avait le blog, Emily Weiss avait lancé son blog Into the Gloss, et c'est de l'écoute de ses clients, quand elle s'est rendue compte qu'un certain nombre de produits n'étaient pas satisfaisants pour l'ensemble de ses lectrices, qu'elle a décidé de lancer ses premiers produits. En France, on peut parler de Bonne Gueule, qui a lancé son guide de l'homme parfait.
Ouais, c'est un e-book, je me souviens. Ouais.
Voilà, bien avant de lancer sa marque. On peut parler de Goop, la marque de Gwyneth Paltrow, qui avait le Goop Lab et qui avait son blog bien avant de lancer sa marque aussi. Ou une autre DNVB américaine qui est très, très connue, qui est une licorne aujourd'hui, qui s'appelle Away Luggage, qui a sorti un livre sur le voyage qui s'appelle Away, avant même de lancer sa marque, et qui a aujourd'hui, donc c'est devenu un magazine qu'elle distribue avec ses produits, qui a toute sa place en ligne aussi en tant que magazine, et qui a aussi un podcast qui s'appelle Airplane. L'idée, c'est que quand vous vendez des valises, la récurrence de l'achat est quand même assez faible. Vous pouvez acheter 3 valises si vous voulez, mais enfin, vous ne pouvez pas en acheter 25 non plus. Et donc, comment vous continuez à créer de la fidélité, à créer du lien avec vos clients si vous lui vendez un produit tous les 3 ou 4 ans? Ça peut être un sujet quand même. Donc, se rappeler à l'esprit de ses clients, créer du lien entre les gens, une raison d'être, au-delà du produit, c'est vraiment un des travaux essentiels de la DNVB, c'est-à-dire que c'est vraiment ne rien vendre pour mieux vendre, en fait. C'est-à-dire que vous pouvez, si vous avez un magazine en ligne ou un podcast, ou les deux, au lieu de tout le temps renvoyer des emails pour aller communiquer avec vos clients autour des produits et autour des promotions, vous avez tout le temps quelque chose à leur raconter autour d'un art de vivre et de ce qu'est votre marque.
Une petite réflexion et j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Moi, j'ai bossé donc chez Salesforce pendant 7 ans. On vendait des plateformes e-commerce, on implémentait les plateformes e-commerce et c'était rarissime. Donc, c'était les clients traditionnels, on ne parle pas de DNVB ici. Et on était surtout fashion luxe comme secteur. Et c'était rarissime d'avoir justement des marques qui souhaitaient développer du contenu. Alors, ma question, c'est la suivante. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui les acteurs plus traditionnels de développer du contenu, de fidéliser leur communauté, travailler sur cette communauté de cette manière-là? Pourquoi ils ne le font pas? Et pourquoi ils ne l'ont pas fait? Et pourquoi aussi ils ne l'ont pas fait avant?
Il y a plusieurs réponses. Le luxe s'y est mis tard, mais le fait très bien. Des marques comme Gucci le font extrêmement bien. Chanel a tout un tas de contenu sur son site très intéressant sur l'histoire de Chanel, sur l'histoire de la marque, sur les savoir-faire. Mais la grande différence, c'est quand le luxe le fait, elle le fait top-down. C'est-à-dire qu'elle le fait, elle donne à voir son histoire et elle reste à distance. Elle ne met pas le consommateur au centre. Comme je l'ai dit, les DNVB sont consumer-centric. Donc, elle s'intéresse d'abord au client avant de se raconter elle-même. Dans une marque de luxe, le héros, c'est la marque. C'est pas le client. Dans une DNVB, le héros, c'est le client, pas le produit. En fait, on a l'occasion de connaître ses clients si on est en direct, de les connaître très bien. Donc, on a l'occasion d'aller leur poser des questions et voir. En fait, je pense que d'ailleurs, ça a été tout le monde a souligné à quel point les DNVB ont été performantes pendant la crise. Justement, c'est parce que en fait, elles ont essayé de comprendre en quoi elles pouvaient être vraiment utiles.
Viviane, j'avais une autre question pour toi. Est-ce que dans la vie d'une DNVB, dans la croissance, peut-être pas au début, mais à un moment donné, la marque va commencer à se développer, elle va aller certainement à l'international ou elle va même commencer à l'international. Est-ce que l'ouverture des magasins physiques en propre, c'est un passage obligatoire ou pas?
C'est une question qui n'est pas si simple à répondre par un oui ou par un non. La France, c'est petit. C'est un petit marché. Quand on est sur, plus la niche est petite, plus le marché va être petit. Donc, il y a plein de fonds qui disent c'est un langage assez courant de dire commencez par la France, puis une fois que vous serez bien, bien implanté en France, bien connu en France, vous irez à l'international. Donc là, dans ces cas-là, peut-être qu'il va falloir avoir une boutique physique. Après, si vous avez un fonds, si vous avez fait plein de tours de table ultra rapide, vous allez finir par devoir avoir une rentabilité extrêmement élevée. Et du coup, le canal acquisition digital ne risque de ne pas suffire. Et il faudra que vous alliez ouvrir des boutiques de plus en plus, avec le risque qu'on connaît. Si vous êtes dans la cosmétique, par exemple, ça peut avoir un intérêt d'avoir une boutique de toute petite taille, mais avec un service derrière qui va faire connaître vos produits. Je pense à la marque de la DNVB de Fanny Pécheda, Seasonly, qui a à son siège, donc c'est là où il y a les bureaux, lancé le NIST. Donc, c'est un endroit très sympathique, hyper chaleureux, où on peut être reçu par une facialiste qui va nous proposer donc un massage du visage, un rituel du visage, et qui va nous expliquer tous les produits les uns après les autres. Et ça, c'est génial parce que on sait que une fois que le produit a été expliqué, que le moment, du point de vue émotionnel, s'est fixé dans la mémoire, ça va être le potentiel de vente va être décru et que, du coup, ces petits espaces de vente qui sont aussi des espaces du coup marketing sont potentiellement extrêmement rentables dans ce cas précis. Enfin, on sait très bien que ton public n'est jamais qu'un public digital ou un public physique. Tout un chacun, on fait plus ou moins nos achats à un endroit ou à un autre, mais en fait, on va partout. Et en fait, ce qu'on veut tous, ce qu'on désire tous, c'est acheter le produit là où on est. Donc, là aussi, il faut avoir une bonne stratégie parce qu'on peut aussi bien, je vois les petits bidons vont distribuer ou distribuer au bon marché, être en adéquation et avoir aussi un endroit où tu sais que tes clients vont te trouver plus facilement. Ou, tu vois, là, en cas de pandémie, il n'y a pas de livraison, bon, on peut te trouver un endroit précis qui correspond au niveau de premiumisation de ta marque.
Est-ce que parmi les DNVB que tu accompagnes, peut-être pas tout au début, mais une fois qu'elle commence à tourner, que ça commence à prendre, est-ce qu'il y a des erreurs que tu vois qui sont constamment faites ou toujours les mêmes travers? Il y a des choses que tu remarques, des tendances comme ça où beaucoup s'en mêlent les pinceaux?
Alors, parmi celles que j'accompagne, j'espère pas. Parmi celles que je récupère après quelques mois d'existence ou une année d'existence, alors, le gros focus sur le produit. Produit, produit, produit. Alors ça, c'est vraiment, si on voulait faire que du produit, alors dans ces cas-là, autant le faire dans un cadre traditionnel. La DNVB ne sert pas à ça, ne sert pas, elle sert à changer, j'ai envie de dire, à changer le monde, d'une certaine manière, à donner une vision différente des choses. Les premières, d'ailleurs, DNVB, c'était très manichéen. C'était David contre Goliath, le méchant Procter & Gamble, le méchant Unilever, le méchant whatever, et la DNVB qui vient en sauveur, qui va faire comprendre le produit, le donner moins cher, de meilleure qualité, etc. Néanmoins, elles ont toutes un fort storytelling. Elles ont toutes l'idée que elles savent toutes qu'il faut raconter une histoire au client. Que ça n'a pas changé. Hein. Ça, c'est vraiment des trucs du marketing qui restera toujours, mais qu'on oublie. On ne vend pas un produit en vantant le fait qu'il soit sustainable ou qu'il soit. Même si les gens y accordent beaucoup d'attention, ce n'est pas un déclencheur d'achat. Et c'est jamais un déclencheur de réachat non plus. Donc, le manque de storytelling, et ça, c'est un vrai sujet. Le manque de travail sur la plateforme de marque aussi, le nombre de projets qui sortent, DNVB ou pas, où 6 mois plus tard, en fait, on s'aperçoit que le nom est incohérent. Tout ça est lié au manque de storytelling, c'est-à-dire que comme il y a une défaillance à ce niveau-là, l'ensemble des composantes de la marque, des composantes physiques de la marque, donc toute son expression créative, sont défaillantes en fait et sont pas en accord. Donc en fait, il y a un manque de cohérence globale du propos et de pertinence donc. Et ça, on le perçoit très très vite et c'est beaucoup plus compliqué à corriger un an plus tard parce qu'il faut communiquer auprès de ses premiers clients justement la raison. Après, il y a aussi souvent l'idée de se précipiter sur le digital en n'ayant pas regardé ce qui s'y passe dans son secteur d'activité. Donc là, par exemple, typiquement, je regarde Ulule la semaine dernière et je vois 20 nouvelles marques de cosmétiques qui font soit du savon, soit des produits pour le visage et le corps, soit des shampoings qui ont exactement le même claim, c'est-à-dire naturel, direct to consumer, à prix juste. Il n'y a pas moyen de les distinguer les unes des autres. En plus, sur Ulule, c'est assez radical parce que dès qu'on voit le nom de la marque, et il y a une phrase pour se singulariser. Bah, du coup, ça singularise rien du tout.
Oui, parce qu'après, tout se ressemble.
Oui, ouais. Exactement.
Et alors justement, Viviane, on se dirige doucement vers la conclusion. Tu viens de nous citer des modèles un peu plus déceptifs, des modèles de réussite aussi. Alors pour toi, quel est le futur des DNVB?
Le futur des DNVB, pour moi, il doit être revenir à l'essence de ce que voulaient faire les pionniers des DNVB, c'est-à-dire un mix de l'Internet et de technologie. Pour continuer à être customer-centric, et quand je dis customer-centric, ça veut dire ne pas dépendre des médias sociaux, donc pouvoir construire ses propres outils en dehors du social media, et pouvoir justement faire construire sa communauté et la faire grossir dans un entre-soi sans dépendance économique.
Donc là, on oublie les Instabrands, quoi, en fait.
Exactement. Et la deuxième, mais ça peut être tous les autres médias sociaux qu'on ne connaît même pas encore.
C'est vrai.
La deuxième chose, c'est être focus sur l'expérience en ligne. On voit bien qu'avec la crise aujourd'hui, on n'est plus dans le online, c'est juste un pied boiteux d'un ensemble. Le online, c'est essentiel. l'expérience online, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, avec les briques technologiques, on n'a plus d'excuses sur « oui, mais on ne peut pas toucher, on ne peut pas ressentir, on peut... » Non, on peut faire avancer les choses quand même. Je crois beaucoup en tout ce qui est biotechnologie, donc là aussi, génétique, neurobiologie, tout ce qui est tout ce qu'on va pouvoir faire en personnalisation, plus en la technologie, plus le digital, là on va aller extrêmement loin. Et après, il y a encore des places à prendre. Alors en food à foison, il y a encore des verticales qui n'ont pas encore du tout été investies.
Viviane, c'est hyper intéressant tout ce que tu viens de nous dire sur le futur des DNVB. Et je pense qu'Adrien va être d'accord avec moi pour dire qu'on là, c'est vraiment sur, on revient sur des basiques du e-commerce. Et lorsque tu parlais de customer centric et de focus sur l'expérience en ligne, oui, ça, ce sont des grosses priorités sur le e-commerce.
Si tu me donnes un petit mot encore, ouais. Je vais te dire, ça me tient vraiment à cœur parce qu'aujourd'hui, j'entends beaucoup justement sur l'espace physique, il faut mettre des outils, digitaliser l'espace physique. Moi, franchement, je n'y crois pas. Je pense qu'il faut... il faut construire le meilleur endroit possible pour les clients il faut bâtir le meilleur service client possible, ce qui veut dire que la seule chose dont le client a besoin en physique, c'est de l'écoute et de l'attention humaine.
Exactement. Et alors là, je me permets de t'interrompre. Tu parlais de Glossier et tu l'as souvent cité. Moi, je suis allée dans la boutique à Londres. C'est pas une boutique digitale, absolument pas. En revanche, c'est une boutique où on a du conseil tout le temps, où on est accompagné dans sa démarche d'achat et ça change en fait et ça fait hyper plaisir. Et en plus, la boutique est hyper hyper jolie.
On pourra faire un podcast entier sur le lieu physique d'ailleurs parce que le lieu physique, en fait, n'est pas du tout perçu par les DNVB de la même manière que les marques traditionnelles le font. C'est un lieu de destination, c'est un lieu... Alors, même si maintenant, elles commencent à regarder la rentabilité, mais la rentabilité ne se calcule pas de la même manière puisque c'est plutôt un lieu marketing, en fait. C'est une immense bannière marketing. Et quand, pour reprendre le cas de Glossier, chaque lieu est différent, que ce soit un pop-up ou un lieu ou une boutique destinée à rester dans le temps. Elles sont toutes différentes, toutes adaptées localement, ce qui fait que c'est un peu comme Cézanne aussi. Chez Cézanne, quand l'appartement est ouvert, on voit des gens qui font la queue et qui viennent à Paris. Ils vont à la Tour Eiffel et ils vont chez Cézanne parce que c'est l'endroit où il faut aller, parce que ça change tout le temps. Le décor change tout le temps, il se passe toujours quelque chose et parce qu'on y est extrêmement bien reçu.
Viviane, eh bien, merci beaucoup pour ton œil très aiguisé sur les DNVB. Viviane, où est-ce qu'on peut te contacter ou comment on peut te contacter ?
On peut me contacter hyper facilement. Je réponds à tout le monde sur LinkedIn, sur Instagram, soit Vilipski, mon compte perso, soit DNVB World, qui est un compte de curation de marque Instagram que je trouve sympa, que je collectionne, et sur Twitter. Et sur mon site brandalchimie.com.
Super.
Merci beaucoup,
merci
Viviane.
Merci Viviane.
Merci à vous, merci à vos auditeurs. À bientôt.
À bientôt.
Et c'est la rubrique Le fond du panier. Le fond du panier, c'est la rubrique de fin, celle où on se détend, où on s'amuse, où Adrien essaie de me mettre la pâtée, mais Adrien est toujours le maître du jeu et s'amuse autour des sujets du digital.
Alors Laetitia, pour cette semaine, pour terminer en beauté, j'ai deux jeux. Le premier, c'est l'acronymateur. Donc on a un peu amélioré par rapport à la dernière fois où c'était difficile. Je te donne l'acronyme, tu me dis ce que c'est. Si tu sais pas, il y a pas de souci, je te donne une phrase de contexte. Et si tu sais toujours pas, bah là je te fais bouh, t'es nul et je peux me moquer de toi. Et tu sais que mon objectif c'est que tu réussisses pas. Non, je plaisante. Quoique, premier acronyme, il y en a deux ensemble, ça peut peut-être t'aider ou pas. Le premier c'est Bopis Boris. Bopis et Boris. Déjà, je vois que ça te dit quelque chose.
Oui. Ah, oh, ça m'énerve. Mais je ne l'aurais pas, donc je donne ma langue au chat.
Non, non, bah alors, je te donne l'indice. L'indice, vas-y. C'est notre Bopis étant de 10%, et du coup, nous avons revu l'expérience en magasin en dédiant un espace web.
C'est un truc avec du online. Et je sais qu'il y a, il y a pick-up aussi dedans.
Mm-hmm. Voilà. Bah, très bien, t'as déjà trois lettres. Bah, écoute, je vais le dire.
Buy online.
Ouais, très bien. Ouais, bah, c'est ça.
Pick up, c'est ça?
Oui, bon, okay, ouais. Tu veux deviner, mais en fait, donc Bopi, c'est buy online, pick up in store. Et Bori, c'est buy online. Tu saurais ou pas le Boris maintenant?
Return, return.
Bravo. Buy online, return in store. Oui, attends, gagné après avoir entendu la réponse. Bravo, Laetitia. La victoire dans la défaite. Donc Bopi, Boris, buy online, pick up in store et return in store. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que tu achètes en ligne sur ce site sur internet et tu choisis la livraison en magasin. Et quand tu vas le chercher en magasin, tu récupères le produit en donnant simplement un numéro de commande et en montrant ton ID par exemple. Et le Boris, c'est la même chose, mais tu retournes en magasin. Tu prends ta commande web, tu retournes en magasin, tu montres, tu donnes ton border de retour et tu le donnes en magasin, pas besoin d'aller à la poste. Donc pour le Bopi Boris. Le deuxième, Laetitia, deuxième acronyme, t'es prête?
Allez.
C'est le SERP, S-E-R-P.
Oh, ça fait un peu SERFA ou... non, je sais pas. Vas-y, donne-moi un indice.
Alors, en optimisant notre position dans les SERP, on a pu driver du trafic de qualité et améliorer notre inbound. J'ai mis un petit peu de cette mot anglais dedans pour faire vraiment comme si on travaillait. Tu vois. C'est vraiment les phrases qu'on pourrait entendre.
C'est clair.
En optimisant notre position dans les SERP, on a pu driver du trafic de qualité et améliorer notre inbound.
C'est pas un truc avec les Google Ads ou...
Très, très bien. C'est dans ce domaine-là.
Ouais.
Et donc, la réponse, c'est Search Engine Result Page. Et en fait, le SERP, c'est en général, donc c'est les résultats de recherche, les résultats du moteur de recherche. En général, on décrit ça comme la première page. Mais bon, voilà, améliorer son SERP, c'est améliorer son positionnement naturel dans le moteur de recherche. Ok, tu te rattrapes avec le deuxième jeu? Question pour champion.
Rattrape, j'étais pas si loin. Hein. Vas-y.
Allez, ok, donc le cupuc. Alors, celui-ci, il va être fun normalement, je le trouve. Ok, il est là. La dernière fois, tu avais trouvé en 10 secondes. Donc, on va essayer de faire un peu plus corsé. Est-ce que tu es prête?
Allez.
Top. Je suis une marque française fondée en 1988 à Avignon. J'ai 300 000 likes sur Facebook, 250 000 followers sur Instagram.
Je sais.
Vas-y.
Bah, on n'en a pas parlé précédemment là dans l'épisode. Genre, ils vont fermer, les gars.
Je sais pas, tu dirais qui?
Alinéa.
Tu m'as tué. Bravo. Mais comment tu sais ça? Mais comment tu sais ça?
Parce que...
non, c'est la deuxième fois. Franchement, Avignon, j'étais sûr que tu trouverais pas, donc je l'ai mis. Oh là là.
Bah si, non mais Avignon, t'as pas beaucoup de.
Mais comment tu connais toutes les marques où elles ont été truquées? Mais elles étaient en 88, t'étais même pas encore né en 88. Bah écoute, je vais finir
Merci,
la description.
Je prends, mais si, je prends la description. Déjà
Incroyable. Je me suis pris la tête à faire la description et tu me court-circuites au bout de la première, deuxième phrase. Bah écoute, je continue. Mon site e-commerce propulsé par Salesforce ne vend qu'en France. Je dispose de 32 magasins en France. Mes produits ont des noms tels que le Vens, l'Icône, le Morguiou ou l'Astoria. Mon slogan est pour un chez vous qui ne ressemble qu'à vous. J'offre un large choix de produits et j'ai l'ambition de rendre accessible au plus grand nombre le plaisir de décorer sa maison pour en faire un lieu de bien-être. En mai 2020, je suis placé en redressement judiciaire et je suis mentionné dans le podcast Le Café de l'e-commerce numéro 41. Je suis
Alinéa.
Bravo Alicia. Franchement, à chaque fois que je l'ai fait, je me dis c'est trop difficile, donc je donne des indices vers la fin et tu trouves tout de suite. Donc ouais, bravo. Franchement, impressionnant.
Merci.
Connais, surtout pour des marques comme ça. Enfin bon, c'est pas les marques qu'on t'achète tous les jours. Tu as les limites une fois par an, bah, ou tous les deux ans. Donc bravo.
Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir partagé cet agréable moment avec Adrien et moi. Pour retrouver les références de cet épisode, rendez-vous dans les notes de l'émission ou sur le site Le Café de l'e-commerce. Allez faire un tour, il est tout beau, il est tout neuf. Et profitez-en pour vous inscrire à notre newsletter et à vous rajouter sur notre groupe WhatsApp et à remplir de formulaires et à faire plein de choses.
Ouais, voilà, s'il y avait une chose à faire, vraiment, moi je pense, moi s'il y avait une chose, un souhait du génie d'Aladin, tu vois, je demanderais une chose aux auditeurs, c'est peut-être de le partager à deux personnes. Un peu en mode contagion.
Le truc le plus basique.
Oui, mais des amis, des gens qui pourraient être intéressants, etc. Tu le partages le lien et c'est tout. S'ils aiment bien, ils continueront à le partager. Si vous n'avez pas Apple, si vous ne voulez pas mettre des notes, si tout est compliqué, juste partagez ou faites une copie d'écran du podcast et vous le partagez en WhatsApp ou à quelques personnes. On a reçu On a reçu justement quelque chose qui nous a fait très plaisir. Laetitia, tu veux parler du screenshot là que tu m'as envoyé cette semaine sur la personne qui avait partagé? Ou tu veux que j'en parle? Tu te souviens?
Je sais plus. Ah bah,
c'est un message que tu m'avais envoyé pour montrer à une personne qui l'envoyait à toute son équipe e-commerce.
Ouais,
il avait envoyé
en
email, il a mis toute son équipe et il a dit découvrez le podcast de l'e-commerce. Donc ça nous a fait vraiment très chaud au cœur parce que justement l'année dernière quand on a monté le podcast, c'était la vision qu'on avait, c'était notre but ultime. Donc on est heureux de pouvoir aider les équipes e-commerce ou les équipes digitales. Bon, on s'arrête là, Laetitia. On se dit à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Ciao.